chanteuses si nombreux. Donc, pour ouvrir cette nouvelle saison du groupe vaudois de philosophie, toujours en partenariat avec la maison de quartier Sougar, que nous remercions encore et encore. Ah ben voilà, ça fait venir Vincent. Bonsoir Vincent. Et après donc une saison massivement suivie, c'est tendu parfois sur la finance, on s'est dit qu'on allait continuer dans des sujets qui fâchent, c'est-à-dire la question des technologies et des technologies émergentes en particulier, dont on entend parler finalement dans nos vies de citoyens tous les jours. On nous parle d'OGM, on nous parle de robotique qui pourrait, nous aider, nous tenir compagnie ou nous remplacer dans nos tâches d'honnêtes travailleurs. On nous parle de trafic de données personnelles sur les réseaux sociaux. On nous parle de... Voilà, ça c'est tous les jours. Et il se trouve aussi que dans le groupe de préparation, on est nombreux à s'intéresser à ça depuis longtemps et à travailler dessus à divers titres. On sent bien que ces technologies ne sont pas juste des gadgets, mais qu'elles nous ont permis, à nous humains en tout cas, d'accéder à une capacité d'action sur notre environnement et sur nous-mêmes, à laquelle on ne disposait pas jusqu'à présent. On sent bien aussi que ces questions-là effraient, font peur, ou même vont à l'encontre de certaines valeurs dans la société, et qu'elle réactive certains anciens mythes très anciens de l'humanité, l'immortalité, Prométhée, le golem, création de la vie artificielle, etc. Donc, ce qu'on observe, c'est que d'un côté, on a d'immenses espoirs fondés ou pas, peu importe, dans les innovations technologiques, et d'un autre côté, on a énormément de craintes et de refus, et donc avec une confrontation très, très frontale. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on voulait faire dans cette saison, c'est plutôt, entre guillemets, désamorcer cette confrontation pour passer au milieu et essayer de se donner des prises dans ces problématiques qui sont, qu'on le veuille ou non, compliquées, délicates et parfois assez urgentes si on considère que effectivement on vit à l'heure d'une hybridation entre l'humain et le non-humain, le vivant et l'artificiel, si tant est que ces expressions veuillent encore dire quelque chose, et qu'on noue des relations assez quotidiennes d'abord, et parfois en bonne partie inconscientes, avec ces technologies qui nous environnent en permanence, qui s'appellent des algorithmes, qui s'appellent des robots, qui s'appellent des manipulations génétiques. Et voilà. Et donc, le titre de la saison, c'est en fait un jeu de mots. Hein, on a dit, c'est pas sur l'affiche, mais le futur est-il déjà là ? Humain et technique, pour expliciter un peu de quoi on parle. Le futur, the future is here, c'est une sorte de mantra. Hein, le futur est déjà là. Ça vient de William Gibson, qui est un auteur de science-fiction, mais c'est très très présent dans les toutes sortes de comptes rendus. Vous avez sûrement déjà vu ça souvent dans la presse ou dans compte rendu d'innovation technologique, voilà, on a fait une découverte ou scientifique, et on dit le futur est là. Et le futur, la suite de la phrase chez Gibson, c'est le futur est déjà là, il est juste inégalement distribué. Et du coup, l'idée de ce jeu de mots, c'est de dire, ben, c'est pas sûr que ce futur soit déjà là, c'est-à-dire qu'en tout cas, il n'est pas inéluctable. Et là, je ne vous parle pas de résistance, mais je vous parle juste de avoir des prises sur ce qui nous arrive. Et que peut-être ce qui est présenté comme déjà là n'est pas tout à fait là, ou est déjà là depuis longtemps. Et voilà, essayer de simplement pas faire des tris ou des distinctions brutales entre oui, non, bien, mal, juste, faux, vieux, nouveau, mais plutôt essayer de s'orienter là-dedans, et puis peut-être un petit peu de se raconter d'autres histoires que celles qu'on aime bien se raconter. J'aimerais remercier donc le groupe de préparation qui est assez conséquent, qui s'est déjà réuni plusieurs fois et qui va continuer à se réunir tout au long de l'année. Groupe qui est d'ailleurs ouvert encore à, si d'autres personnes veulent vraiment s'impliquer dans la conception de cette saison et les discussions qui vont autour. Florence Quinche, Béat Michel, Philippe Clark, Michel Vanny, Alain Kaufmann, David André, Claire Cliva, Christian Engermull, Mathieu Clavel, Nicole Durich-Gauthier et Étienne Honoré, qui interviennent aussi en tant que partenaires pour la saison du 27 mars, où nous recevrons Rémi Susson, qui est probablement le plus grand connaisseur dans le monde francophone des questions liées au transhumanisme, au pluriel, puisqu'il nous fera une conférence ici même, mais en partenariat avec la formation continue de UNIL, HEP et PFL, sur, comment ça s'appelle, origine et évolution des idées transhumanistes. En attendant, nous aurons d'autres séances. Je vais passer la parole à Alain Kaufmann pour juste dire un mot des deux prochaines séances, donc de novembre et de décembre.
Oui, alors les deux premières, donc la prochaine séance aura lieu le 6 novembre. Alors le titre, j'ai oublié, je ne sais pas si tu l'as noté.
C'est bricolage en laboratoire.
Bricolage en laboratoire. Donc en fait, il se trouve que j'ai créé à l'Université de Lausanne un laboratoire qui est réservé au public, qui s'appelle l'éprouvette. Et ce qu'on a décidé de faire pour réfléchir au rapport que l'on a des techniques qui apparaissent ésotériques la plupart du temps, c'est-à-dire les techniques de génie génétique ou de biologie moléculaire, de vous donner la possibilité d'expérimenter certaines de ces techniques pour faire une manip qu'on appelle de biologie de synthèse à la Haute École Pédagogique grâce à la collaboration de Florence. Donc on ne vous fait pas aller descendre à Dorigny où on a nos locaux habituellement, mais on se déplace à la HEP. Et il y aura sur inscription, j'insiste là, il faut vous inscrire. Il y aura une adresse qui sera groupe Vaudois, dans l'ordre d'arrivée. Et là, vous aurez l'occasion de faire vous-même un certain nombre de manips qui sont des manips un peu standards de biologie moléculaire, de biologie de synthèse, qui se pratiquent maintenant dans un cadre qui est souvent extra-académique, qu'on appelle la biologie de garage, ou le DIY bio, etc., qui sont donc pour nous une manière de réfléchir ensemble sur l'appropriation de techniques qui sont censées être réservées en principe aux experts, dans des cadres bien contrôlés en termes de biosécurité, en termes de biosûreté, etc. Donc une première séance pratique avec notamment Séverine Rouillou ici présente et Delphine de Goulombier, puis une deuxième séance le 11 décembre sur laquelle on reviendra de manière réflexive sur ce qui se développe autour de ces techniques qu'on appelle sciences citoyennes, sciences participatives, DIY bio, etc., pour voir dans quelle mesure il s'agit d'une nouvelle manière de faire de la science, d'une réappropriation, d'un détournement. J'aime beaucoup la jolie expression de Gabriel qu'il a inventé dans le cadre d'un séminaire à l'UNIL, c'est la philo-hacking, c'est-à-dire qu'ici on fait en fait, au Vaudois, on fait du hacking de la philo, et on fait aussi ça maintenant comme on l'a fait dans le domaine de l'informatique, ça se pratique aussi dans le domaine du bio, donc il y a une forme de bio-hacking, on essaie de réfléchir ensemble sur ce que ça veut dire, de ces redéfinitions du rapport à la technique permis par ces techniques qui se diffusent maintenant largement sur la planète.
Merci. Alors, je finis par deux rappels de rigueur. Le premier, c'est que si par malheur, vous n'êtes pas encore membre de nos newsletters ou pages Facebook pour recevoir nos informations, donc vous trouvez toutes les indications sur www.philo-vo.ch. Où vous trouvez aussi les indications pour, si vous le souhaitez, devenir membre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement nous soutenir dans l'élaboration de nos saisons, puisque tous les événements sont libres et gratuits, bien sûr. Mais si vous avez envie de nous donner un peu vos sous, eh ben, on saura très bien quoi en faire. Voilà, donc on va procéder comme ça. C'est-à-dire que, en fait, je vais démarrer un peu ras des pâquerettes, vous raconter deux, trois petites histoires. Et puis, ensuite, je passerai la parole à Christian, qui va ouvrir ces questions-là, et Florence, qui devrait vraiment nous emmener sur les routes de certaines technologies contemporaines. Ou pas. Alors, c'était pas vraiment voulu, mais en fait, ça suit un peu la narration de cette affiche. J'essaie de présenter un peu comme ça, par hasard. On va, c'est dans le sens de la lecture, hein, de gauche à droite, du réel au rêve. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de main, de quelques jeux de main. En vous présentant deux films promotionnels hein, qu'on trouve sur Internet facilement, YouTube, etc., qui viennent de deux entreprises. La première, c'est Sarif Industries, qui est une entreprise américaine, fondée en 2007, et puis Bee Bionics, qui est basée au Royaume-Uni, aussi. Date aussi le début des années 2000. Alors, je commence avec le premier. fini, normalement.
Ed Streeter a changé mon existence. J'ai pu développer mon art, la grande passion de ma vie.
Taking pictures. Prendre une photo est aussi facile que cligner les yeux. Maintenant, quand je prends des risques, le monde entier peut voir ce que je fais. Je veux être le meilleur. Je veux être au top, faire partie des élites.
Faut pas en dire, le football a toujours fait partie de ma vie. Mais après ce qui s'est passé, je ne pensais pas jouer au ballon avec mon fils. Et c'est un peu comme si on démarrait une nouvelle vie tous les deux.
C'est super cool. Maintenant, quand on joue, il peut lancer le ballon vraiment plus
loin. Faster, jump higher, plus vite, c'est plus haut. Pour être meilleur,
j'ai pas le choix.
Chez une fille, vous voyez, je peux vraiment te ressentir. Quand j'attrape le ballon, j'arrive à sentir le cul sous mes doigts.
Je joue du piano 1 million de fois mieux qu'auparavant. C'est plus facile. J'ai jamais autant aimé jouer. Tout le monde me connaît grâce à mes augmentations.
Grâce aux augmentations, ça arrive. Je vois le monde sous un jeu de micro. Je l'aime beaucoup.
Je suis une sans gagner.
Et c'est comme un vrai bras, mais mieux. On se sent fort comme un athlète avec ça. Ça a été une révélation.
Et Fourier, ça a vraiment, vraiment changé ma vie.
Alors cette entreprise, donc, je disais, fondée en 2007 par David Sarif, qui en fait a racheté, souvenez-vous de ça, une usine de voitures en faillite et s'est réorienté sur le développement de prothèses humaines. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce type ? On voit des gens, on voit quatre personnages qui mènent une vie comme la nôtre, à peu de choses près. Ils font de la musique, ils jouent au ballon avec leur fils, ils prennent des photos, ils envoient des messages aux gens qu'ils aiment, etc. À peu de choses près, puisqu'ils sont dotés de fameuses augmentations Sarif Industries, qui leur permettent de faire ça plus facilement, sans effort, beaucoup mieux que vous et moi, autant que ça. Remarquez aussi qu'à aucun moment, on nous explique comment ça marche. Ces prothèses ont l'air totalement normales, quotidiennes, intégrées dans une vie qui est plus banale. Et donc le sujet, ce n'est pas vraiment le prodige technologique, même si c'est ce qui est supposé être vendu par l'entreprise. On ne nous parle pas vraiment de technologie, en fait, là-dedans. Et vous remarquez aussi qu'on voit des humains, certes, mais qui sont blancs, qui sont plutôt beaux, probablement californien, ou en tout cas plutôt favorisé par, disons, par les conditions socio-économiques. Et là, on voit, en fait, c'est ce qui s'est très facilement ce que de nombreux philosophes depuis plusieurs années appellent ou adressent comme problématique, ce qu'on appelle « human enhancement », qui est un terme assez difficilement traduisible en français, qu'on rend généralement par « amélioration humaine » ou encore plus souvent, comme dans le film d'ailleurs, c'est dit très clairement, par augmentation humaine. Et là, je pose un petit peu juste deux, trois éléments de décor. Cette problématique du human enhancement, elle dit quoi ? Elle dit qu'au fond, on va assister à un changement des normes sociales sous la poussée d'intérêts généralement économiques et industriels, où les augmentations deviendront plus ou moins obligatoires, en tout cas, un déplacement de la normalité. Où ceux qui sont équipés seront plus favorisés dans la lutte pour la survie ou pour la compétition de tous contre tous, hein, avec une vision, je crois que Christian en parlera, une vision sociale ou de la concurrence de tous contre tous, en concurrence acharnée. Je crois que c'est celui avec les implants des yeux qui dit, texto, il s'agit d'être le meilleur, de faire partie de l'élite. Les raisons pour lesquelles ces personnages se sont fait implanter ces prothèses ne sont pas claires du tout. Le père, avec son fils, fait vaguement allusion à un accident. Il dit ce qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. Et on peut du coup imaginer, les imaginaires là, le circulent pas assez vite, que pourquoi pas, on pourrait se procéder à des amputations volontaires pour remplacer nos membres standards de chair par des membres produit par Sarif Industries ou l'un de ses concurrents, qui serait meilleur. Et donc, voilà, là, c'est juste pour poser deux, trois éléments de décor, de questions de questions politiques, au fond, dont on aura amplement l'occasion de discuter aujourd'hui et puis dans la suite de la saison. Et en fait, on comprend que le film de Sarri Findustries est presque critique, si vous voulez, quasiment critique à demi-mot. Et en fait, il l'est vraiment, puisque c'est une fiction d'anticipation qui accompagne en été 2011 la sortie d'un jeu vidéo qui est une des plus grosses sorties de ces dernières années, qui s'appelle Deus Ex Human Revolution, qui met en scène la résistance armée de quelques humains contre l'emprise de Sarif Industries, qui en fait, le modèle c'est Monsanto derrière, si vous voulez, qui produit et qui vend des modifications des prothèses et toutes sortes de matériel de ce genre-là, et le médicament indispensable pour que l'organisme tolère ces implantations. Donc, et puis alors le site web de Sarif Industries auquel vous renvoie le clip, et en fait mis en scène comme piraté par la résistance qui dit justement surimpression, donc il y a breach, il y a une brèche de sécurité et qui dit attention, ils annoncent la fin de l'humanité, ils veulent nous remplacer par des machines, etc. Bon, alors film de fiction, est-ce que pour autant tout cela n'est que pure fiction? Eh bien non, et j'aimerais maintenant vous parler un petit peu, vous raconter l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Nigel Hartland. Et pour ceux qui suivent mes péripéties sur Facebook, j'ai eu le plaisir de rencontrer, avec qui j'ai pu discuter un moment à New York au mois de juin. Et alors on va regarder un petit peu ce qu'il nous raconte. En fait, non, je vais pas regarder. On va le regarder simplement. Donc Nigel a été employé. Il est ouvrier en fait, enfin spécialisé. Il est fondeur de métaux précieux. Et puis en 2006, il a un accident de travail avec une machine qui simplement lui tombe sur le bras. Et il se bat pour essayer de sauver son bras pendant plusieurs années. Ça marche pas. Et finalement, c'est lui qui décide de se faire enlever son bras parce qu'il était trop endommagé. Ensuite, il essaye plusieurs types de prothèses, des prothèses vraiment... fonctionnelles, pratiques, les crochets, les pinces, comme des pinces de homard, comme ça, mais qui, comme il me l'a dit, n'avait rien d'humain. Et en 2012, fin 2012, il a l'occasion de décrire pour tous, que j'ai pas pu complètement éclaircir, d'essayer cette main produite par B-Bionic, là, c'est la version 2. Qui a été lancé en novembre 2012. Et c'est en fait la prothèse de main la plus avancée au monde, qui fonctionne avec deux capteurs dans les muscles, puisque comme vous verrez tout à l'heure, il est amputé en fait juste après le coude, et du coup la prothèse remonte, on reste là pour l'instant. Donc vous l'avez vu un peu dans son donc c'est une vidéo de l'entreprise. Hein. Il est dans son monde quotidien, dans sa cuisine. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est pour vous cette prothèse? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est un bras? Qu'est-ce que c'est? Il hésite un moment et il me dit non, it's my own. C'est vraiment moi. C'est une partie de ma vie. Et je lui ai demandé si, puisque en fait c'était dans un événement sur quelque chose dont on va beaucoup parler, donc sur le transhumanisme, avec pas mal de grands enthousiastes, de technologies qui allaient révolutionner l'humanité. Je lui demande comment il se positionne par rapport à ce contexte-là dans lequel il était, comme moi, pendant deux jours. Et il me dit non, moi je suis juste en train de vivre, je ne fais pas de plan pour le futur. Je pense pas à ces trucs de transhumanisme, post-humain, etc. Pour moi, cette prothèse rend juste ma vie meilleure. Et je me vois pas du tout comme un transhumain ou quelque chose d'autre. Et il dit, moi je suis juste un gars ordinaire qui porte a very nice piece of technology, donc vraiment un objet formidable, et qui essaye de vivre une vie normale. C'est tout. Et puis alors, il me dit, voilà, vous dites transhumanisme, tout ça, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais regardez, lui, il porte des Google Glass, lui, vous avez des lentilles de contact, il y a des gens qui ont des pacemakers, donc tac, tout à coup, après m'avoir dit très posément qu'il vivait une vie tout ce qu'il y a de plus normal, il dit, ouais, mais finalement, je ne suis pas le seul à porter des trucs un peu bizarres, un peu des trucs technologiques. Et vous le voyez, il me disait, voilà, on a des lentilles de contact aujourd'hui, mais on pourrait imaginer avoir des lentilles, comme on l'a vu dans Serif Industries, qui permettent de zoomer, par exemple. Pourquoi pas? C'est quoi la différence? Bon, et là, c'est là que j'ai commencé à trouver ça intéressant, puisque j'ai commencé à me rendre compte qu'il naviguait sans arrêt entre le quotidien, entre le fait d'avoir retrouvé une apparence normale, humaine, ce qui pour lui est extrêmement important, vraiment sur le plan... C'est vraiment un type voilà, qui n'avait rien demandé. Ce n'est pas un ingénieur ou un expérimentateur. Il ne pensait pas un jour porter ce genre de truc. Donc ce côté très intégré. Et puis le fait d'avoir un rapport très, très distancié avec sa prothèse. Et d'ailleurs, le site Bionics propose, vend aussi des gants à apparence en silicone de main pour vraiment rendre la main la plus humaine possible. Et lui refuse. Le site web précise qu'il refuse de la porter avec un gant transparent. Enfin, il a un gant transparent pour laisser apparaître la main noire afin de ne pas la trouver trop réelle. Alors, on va suivre un peu la vidéo.
Walk more? Yes, we can. Someone asked me if I could do the international signal for road rage. Yes, I can. And I can also rotate it a full 360. One poor chap did say that he thought it was a fake hand and all done with special effects. So, it's not fake. It's real. And stop. And stop. Lock and load. And we're back and ready to go again. It does make life a lot easier.
Hello. Oh non, c'est pas ça que je vais faire. B-Bionics parle, je vous ai présenté tout ça, parle de patients sur son site web et pas de clients. Vraiment, ça reste une industrie. Et eux, et Nigel aussi, c'est pas le cas dans cette vidéo parce que je vous laisse au truc, du moment où il la démontre. Mais parle abondamment du fonctionnement technique et comment ça marche, pourquoi c'est comme ça et pourquoi les moteurs font ceci, cela, etc. Et du coup, là vous voyez son bras sans la prothèse. Ce qui me semble intéressant en fait dans cette petite histoire, c'est que ça permet de se concentrer sur, en tout cas de ne pas perdre de vue l'objet. En l'occurrence, sa prothèse de main, ça pourrait être beaucoup d'autres objets. L'objet technique lui-même, pour essayer de penser qu'est-ce que c'est que cet objet technique et quelles sont nos relations avec cet objet technique, et éviter, enfin en tout cas ne pas faire que, si vous me passez l'expression, penser la technique. C'est un peu ce que nous incite à faire Serif Industries en disant voilà, il y a la technologie. Et au fond, dans ces cas-là, et c'est souvent le cas aussi, on aura l'occasion d'en parler, hein, mais dans le discours critique, si vous voulez, c'est qu'on parle très peu des objets, finalement. Et c'est dans ce rapport aux objets qu'il se passe des choses assez intéressantes et qu'il y a pas mal d'ambiguïtés qui surgissent. Et par exemple, je demandais à Nigel, qu'est-ce que, justement sur la réparation, je disais, est-ce que vous êtes réparé, augmenté, comment vous voyez ça? Puis il me disait, non, je peux faire tout ce que vous faites avec votre main, je peux le faire aussi. Le seul truc que vous ne pouvez pas faire, c'est la tournée à 360 degrés, comme vous avez vu. Mais sinon, on peut faire la même chose. Par contre, si je vous accroche, vous aurez de la peine à partir. Donc, si vous m'accrochez, je pourrais me dégager. Bon. Et il dit, cette prothèse me permet de faire tout dans les limites de la main, enfin dans les limites de la capacité de la main. Mais la main, l'usage de la main devient de plus en plus sans limite. Et d'ailleurs, il dit, nous devenons tous sans limite. Donc, il glisse comme ça. Et à propos de limites, je lui demandais, il me disait, voilà, je peux tout faire, je peux même nager, je peux faire la vaisselle et tout, waterproof et tout. Mais je lui disais, mais est-ce que vous la gardez pour dormir? Il me dit non, alors là, je ne la garde pas pour dormir, je dois l'enlever parce que je dois la recharger. Je dois la brancher sur le secteur. Et là aussi, le lendemain, en fait, j'ai vu le premier jour du colloque, et le lendemain, elle avait rejoint le responsable de la conception de l'objet, qui est un ingénieur qui vient de l'industrie automobile, d'où le intéressant, et qui lui avait été engagé pour faire un projet de design, comme il dit. Il est arrivé dans ce centre de congrès, il n'avait jamais entendu parler du transhumanisme, il ne savait pas du tout ce que c'était, je ne sais pas où débat. Mais moi, j'ai fait un projet de design, je suis mécanicien auto, je n'ai pas très bien compris comment j'étais arrivé là, mais enfin, c'est super cool. Et quand j'ai demandé à Nigel, voilà une petite anecdote, enfin, je devais finir faire signer un formulaire, des trucs académiques à la con, et je dis, mais peut-être vous pourrez le signer avec votre main bionique. Il m'a dit non, je peux pas, parce que I'm left-handed, ce qui veut dire je suis gaucher, mais ce qui veut dire aussi, comme vous le savez, je suis maladroit. Et donc, tout à coup, de voir ce type qui est maladroit, qui a eu un accident de travail, et qui ensuite devient plus chanceux d'abord, left-handed aussi, c'est chanceux de tomber, d'être au bon endroit au bon moment pour qu'on lui propose ça, et ensuite avoir des capacités qu'il n'admet pas tout de suite, mais qui sont quand même un peu supérieures à nos mains habituelles, je trouvais assez curieux. Et assez indicateur justement de ces relations troubles et de à quel point les frontières bougent, y compris dans une discussion d'un quart d'heure. Et je pense, voilà, ce que je voulais donner là-dedans, c'est de dire que c'est justement parce que les relations ne sont pas claires qu'elles sont intéressantes et qu'il faut les interroger. Et voilà, et simplement aussi, je suis très surpris, le seul truc dont je suis très surpris dans la vidéo que je vous ai montré, c'est qu'il est seul, à part son chien. Contrairement à Sari Film Justice, on voit toujours des gens dans des interactions. Donc, relations aussi, là, être plus performant, ça veut dire quoi? Être plus performant que qui? Ça, on ne le dit jamais. Nigel est seul dans la vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à New York, il n'était jamais seul. Et qu'il y a une personne qui a serré... un nombre de mains incalculable, c'est bien lui, toute la journée. Voilà.
Je vais continuer sur cet objet de la prothèse. Je vais m'intéresser maintenant en deux trois mots sur l'histoire, approfondir un tout petit peu d'où vient cet objet. Excusez-moi, je prends le temps de la discussion. Ce qui m'intéresse, je vais commencer par deux anecdotes, toujours sur l'histoire de la prothèse. Une qui vient d'un cours que j'avais donné, qui portait en partie sur les citations, les objets que je vais vous présenter tout de suite, dont Gabriel a déjà parlé un tout petit peu. Donc, cette histoire de la prothèse. Et dans l'un de ces cours, j'avais invité des ingénieurs des HUG, des hôpitaux universitaires de Genève, qui étaient spécialistes des implants cochléaires et implants rétiniens, qui venaient présenter à la fois leur travail, mais discuter aussi avec mes étudiants qui, eux, avaient travaillé sur ce qu'il y avait autour, en fait, de l'objet technique, c'est-à-dire les associations qui aident les sourds de naissance, les aveugles de naissance, à récupérer des capacités qu'ils n'ont jamais eues, à apprendre ou à gérer des informations qu'ils n'ont pas appris à gérer. Et suite aux citations que vous allez bientôt découvrir, un de mes étudiants, au milieu de la discussion, a pris la parole et a demandé à un de ses ingénieurs, vous fabriquez des objets techniques qui permettent aux sourds d'entendre, aux aveugles de voir, mais est-ce que vous êtes capable de implanter dans la tête des gens des sonars ou des visions infrarouges? Et l'ingénieur répond, je le fais dès que vous voulez. Je le fais quand vous voulez, il suffit juste que vous me trouviez les personnes qui aideront ces gens à interpréter les informations qu'ils recevront et à les guider pour pouvoir justement récupérer cette capacité d'infrarouge ou cette capacité de sonar. C'est tout ça pour vous dire que la question de la prothèse, je vais l'aborder avec essentiellement un livre que j'ai choisi de mettre en évidence, qui est d'une chercheuse américaine qui travaille à la Duke University, qui s'appelle Catherine Hales, qui a écrit un livre merveilleux sur toutes les questions qui vont nous occuper cette saison, « How We Became Posthuman ». Et le titre seul, « Comment nous sommes devenus post-humains », reprend des choses que Gabriel a déjà dites, à savoir cette question de la technologie, de l'objet technique, la transformation technologique de l'humanité, de la technologie en humanité, n'est peut-être pas tellement une question de savoir ce qui est possible demain, mais ce qui a déjà changé dans la condition humaine, ce qui est déjà le propre, ce que ces technologies reflètent, révèlent de ce qui fait notre humanité. Sur la question de la prothèse, je commence par cette citation. La perspective post-humaine de Catherine Hales, donc, que je traduis ici, la perspective post-humaine pense le corps comme la prothèse originale que nous apprenons tous à manipuler, de telle manière qu'étendre ou remplacer le corps par d'autres prothèses devient la continuation d'un processus qui a commencé avant que nous soyons nés. Cette citation est relativement claire. Je peux l'expliciter un tout petit peu par une anecdote d'un anthropologue, un biologiste qui s'appelle Gregory Bateson, dont on aura sans doute aussi l'occasion de reparler pendant le cours, pendant le cycle de conférences, qui dans un de ses cours, quand ses étudiants lui demandaient qu'est-ce que c'est qu'un cyborg, qu'est-ce que c'est qu'une prothèse, il disait vous connaissez des gens qui portent des lunettes, vous connaissez des gens qui marchent avec une canne, ce sont des cyborgs. Ils ont déjà augmenté leur capacité corporelle, leur capacité physique à l'aide d'un objet technique. Mais en réalité, vous êtes des cyborgs puisque vous utilisez des objets sociaux comme les rituels. Et Bateson introduisait le rituel en anthropologie comme étant une prothèse, un objet technique qui augmente les capacités sociales d'un corps. Je vais laisser planer cette citation pour venir sur une deuxième qui est extrêmement importante sur la question de la prothèse et de ce qui fait le corps, de ce que veut dire un corps. Je vais venir avec cette citation d'un mathématicien qui s'appelle Norbert Wiener, qui est l'un des fondateurs de ce courant qu'on a appelé la cybernétique. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Le mot cybernétique vient de ce monsieur Norbert Wiener. Avant de vous expliquer de quoi il s'agit, Norbert Wiener était un spécialiste de la programmation des missiles au MIT. Il a travaillé pour le gouvernement américain pendant la guerre. Il a participé à la fondation d'un groupe qui s'intéressait à la question de la prothèse, justement, et qui a écrit un livre après-guerre qui vulgarise un peu ses conceptions. Et ici, il donne ce qu'il comprend comme étant la caractéristique d'un corps. Le caractère individuel du corps, il dit, est celui d'une flamme plutôt que celui d'une pierre, d'une forme plutôt que d'un morceau de substance. Cette forme peut être transmise, modifiée et dupliquée. Je vais venir, mais gardez cette idée en tête que dans tout l'imaginaire des gens que je vais citer maintenant, la question du corps, la question de la substance du corps est une fausse question. La vraie question, c'est la question du motif, de la forme que prend le corps. Et donc, le fait que vous ayez une main, d'une substance main, ça n'a aucune importance pour définir ce que fait votre propre corps dans cette tradition-là. Cette main peut être remplacée par autre chose qui entre en motif, entre en résonance, s'enflamme d'une certaine manière, pour garder le régime métaphorique, avec le reste de votre corps. Elle me semble un tout petit peu. Oui, je crois qu'elle est un tout petit peu touffue, celle-ci. Ici, je ne vais pas la lire en entier, je vous laisserai la découvrir, on peut y revenir dans la discussion. Mais selon cette logique, c'est le simple développement logique de Wiener et qui vous explique la question de mes étudiants. Wiener dit ce qui fait un corps, ça n'est pas une substance, mais c'est une forme. C'est un motif. Alors, en termes d'ingénierie, on peut imaginer recomposer un corps en le composant selon ce qui fait son motif et non sa substance. En d'autres termes, on peut donner à un corps des capacités qu'il n'a jamais eues. On peut l'enrichir de capacités, exactement comme le fait la société comme disait, vous vous souvenez de la citation de Catherine Hayes, bien avant que nous soyons nés, on peut l'enrichir de capacités supplémentaires ici, un sonar, une nageoire de dauphin, etc., etc. D'où vient la cybernétique et que raconte la cybernétique ? La cybernétique a été fondée pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, par des anthropologues, des mathématiciens, des ingénieurs, des psychologues, qui se sont retrouvés autour d'une question et qui partageaient tous un milieu. Ce milieu, c'était celui qui avait connu le krach de 1929, la dérégulation économique et sociale des années 30, la guerre. Norbert Wiener était un émigrant d'une famille de juifs russo-allemands qui avait émigré aux États-Unis, travaillé pour l'industrie militaro-industrielle, refusé de livrer ses travaux au gouvernement. Il y a toute une histoire autour de Norbert Wiener sur laquelle on pourra revenir. Mais enfin, c'est derrière cette question de la technique, Norbert Wiener n'est pas un enthousiaste ni de la technique, ni des possibilités du monde dans lequel cette technique évolue. Je vous ai donné ici cette citation. Certains organismes, tels que l'homme, ont tendance, comment comprendre cette histoire de la flamme, parce que la flamme, vous avez bien compris, ça brûle, mais ça disparaît, à un moment donné, ça arrête de brûler, ont tendance pendant un temps à maintenir et souvent même à augmenter le niveau de leur organisation comme une enclave locale dans le flux général d'une entropie croissante, d'un chaos et d'une différenciation croissante. La vie est une île, ici et maintenant, dans un monde mourant. Retenez ceci, la vie est quelque chose d'éphémère dans un processus général d'entropie, de destruction. Et dit Wiener, en précisant ici avec une métaphore que je trouve très éclairante, nous ne sommes que des tourbillons, je reviens sur l'idée du motif, hein, le pattern, nous ne sommes que des tourbillons dans une rivière d'eau qui coule sans fin. Nous ne sommes pas de la matière qui souffre, mais des motifs qui se perpétuent eux-mêmes. Toute la tâche de ce qu'il appelle la cybernétique, j'y viens, est d'enrayer la destruction de ces petits tourbillons, de faire que ces tourbillons continuent, se perpétuent, se propagent, se communiquent quelque chose entre eux, et que dans ce flux général de destruction, quelque chose reste. La cybernétique, ça vient d'un mot grec qui signifie le gouvernail. Gouvernail comme objet technique qui permet de diriger un bateau. Et en fait, Wiener le tire d'un mot anglais, le governor, qui vient d'un objet technique lié à l'industrie des locomotives. Et je vous donne juste cette citation que Wiener reprend parce qu'elle parcourt tout l'imaginaire cybernétique, post-humain, transhumain. Je pense qu'on va retrouver quelque chose de cette question tout au long du cycle. Un régulateur est la partie, dit cet ingénieur, Clerk Maxwell, dans son texte sur les objets techniques, de Governor, est la partie d'une machine par le moyen de laquelle la vitesse de la machine est maintenue à peu près constante, indépendamment des variations de force motrice ou de résistance. Ce qui est important ici, c'est la question de l'autorégulation. Je vous ai parlé des années 30, du krach financier, des catastrophes de la guerre. Tous les gens que j'ai évoqués se sont réunis autour de séances d'hypnose. Ils étaient intéressés par un hypnoticien, un spécialiste en hypnose qui s'appelle Milton Erickson. C'était des gens qui travaillaient, c'était des psychologues qui travaillaient avec des traumatisés de guerre, c'était des gens qui travaillaient avec des personnes âgées qui avaient des difficultés motrices et qui se posaient la question comment un corps est capable de se réparer lui-même. Comment, par l'hypnose, on peut mettre un corps dans la capacité de récupérer des possibilités qu'il a perdues et que la technique n'est pas capable de lui faire récupérer. C'est ça qui donne le point de naissance de ce mouvement et des gens dont j'ai parlé ici. Et donc, derrière cet imaginaire, le krach de 29, tous ces gens viennent avec l'idée que le politique a échoué et qu'il faut donner le pouvoir aux technocrates ou aux biocrates, comme on les appelle parfois, c'est-à-dire des gens qui vont autoréguler, qui vont permettre à la société de s'autoréguler, de trouver les capacités de traverser. Vous voyez, derrière cet imaginaire de la cybernétique, imaginaire américain, vous avez, en termes politiques, l'intégralité du champ qui est couvert, des libertariens aux anarchistes, des libéraux aux socialistes, qui est couvert derrière cette idée et ce fantôme de l'autorégulation. Comment une société est capable de s'auto-organiser. Je vais passer, le temps va vite. Donc, je vais vous dire en deux mots ce que j'avais imaginé vous dire plus longuement sur les mythologies du corps cybernétique. Le corps cybernétique est un corps, puisqu'il s'autorégule, en coopération constante. C'était quelque chose que je trouvais aussi intéressant dans l'exemple que Gabriel avait soulevé. On peut y revenir dans la discussion. J'ai ici quelques citations à vous offrir. C'est-à-dire qui permet de penser la technique différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, j'imagine, comme un écosystème. On vit en écosystème avec des objets techniques. Les objets techniques font partie d'une écologie. On entretient des rapports, on entretient un rapport politique avec ces objets qui forment la façon de repenser le corps. Et je vais terminer, du coup, rapidement, sur cette question de l'autorégulation, ce rêve de l'autorégulation, ce rêve de la prothèse, ce rêve de l'autoréparation. Si vous voulez, la seule chose pour lancer ce cycle, c'est la question qui va traverser toute la culture populaire, qui reprendra tous ces thèmes, c'est la question de il y a des corps qui s'auto-réparent et il y a des corps qui ne s'auto-réparent pas. Qu'est-ce qui se passe dans un espace politique quand se confrontent des corps qui s'auto-réparent et des corps qui ne s'auto-réparent pas? Et toute la question du transhumanisme, je pense, se développe dans cet espace-là. Et la NASA fait partie évidemment de cette histoire. La NASA, c'est l'organisme qui a donné naissance au mot cyborg. Vous pouvez revenir aussi, si vous voulez, je vous explique l'histoire dans la discussion plus tard. Mais la NASA avait le projet de fonder des colonies dans l'espace. Ici, vous avez des ouvrages publiés dans les années 70. La NASA, dans les années... au moment où s'est développé les programmes spatiaux qui ont précédé la NASA, l'idée était très rapidement aux États-Unis d'envoyer des écosystèmes dans l'espace. L'idée après-guerre, c'était qu'on va envoyer toute une écologie, puisqu'on considère l'humain comme un écosystème. Donc, comment est-ce qu'un écosystème va survivre hors de son espace? Quand les Russes ont pris de l'avance, on a décidé de scinder le programme en deux. Une partie du programme dont je ne parle pas ici, envoyer les hommes sur la Lune, très bien. L'autre partie, continuer à imaginer ce que ça voudrait dire qu'un écosystème s'arrache à l'écosystème plus large, à la planète à Gaïa, comme navire spatial. C'est-à-dire à ce moment-là qu'on renverse, qu'on imagine la Terre comme étant le navire, le modèle du navire spatial qu'on enverra dans l'espace. Et je vous laisse juste terminer en image par ces systèmes de fonctionnement, ces plans de fonctionnement cybernétique. Ces modélisations d'une société autoréparée, autoréparatrice, autonome, dessinées par Don Davis pour le projet suivi par Gerald O'Neill pendant les années 70, qui était en fait donc une colonie qui s'organisait en tube, et vous trouvez des programmes de loi, des programmes de gestion des déchets, des programmes d'organisation politique, des plans d'appartement, des plans d'habitation, et puis ces représentations, on peut y revenir dans la discussion, de l'espace, l'idée étant d'une parfaite société cybernétique qui récupère l'énergie de l'espace, la retraite et vit en autarcie comme la planète Terre. Voilà.
Tu voudrais du son? quand t'en as coutume.
Alors moi je vais faire une variation un peu sur les thèmes que mes deux camarades ont développés. D'une part sur la modification qui passe par le corps et dans la deuxième partie sur des modifications qui ne passent pas directement par le corps. Vous entendez rien ? C'est bien ce que je craignais. Donc deux parties, une partie qui va creuser certains de ces thèmes liés à la modification via le corps pour faire des distinctions dans un prurit analytique. Mais je vous rassure, ce ne sera pas nous. Et puis une deuxième partie qui va plutôt s'intéresser sur d'autres modifications qui ne sont pas liées au corps mais qui sont aussi évoquées par les transhumanistes et qui répondront un peu à cette dimension que tu viens d'évoquer juste maintenant, Christian. Et je me suis tout d'abord demandé comment distinguer ces différents niveaux de modifications corporelles à partir de la médecine, en fait. Et j'ai réfléchi à comment distinguer, trouver la spécificité peut-être de ces éléments transhumanistes par rapport à ce qui se fait déjà depuis très longtemps en médecine. Et j'ai essayé de faire ça dans une sorte de gradation. Alors, j'ai réfléchi à partir de la réparation des fonctions, du travail sur le fait de retrouver des fonctions que le corps aurait perdues. Alors, ça peut être des fonctions des membres, des organes ou du métabolisme. Et ça peut aussi être autant des fonctions liées à la perception, à la motricité, que des fonctions intellectuelles ou psychiques. Et un premier niveau, qui me semble être déjà très présent, en tout cas dans la médecine, déjà de l'Antiquité, c'est de préserver les fonctions par quoi ? Par de la prévention. Et là, on n'a même pas besoin d'avoir une technologie ou une technicité extrêmement élevée. La simple utilisation d'un régime ou la réflexion sur le mode de vie est déjà une façon de préserver ces fonctions-là. Dans un deuxième niveau, on va chercher à compenser une fonction déficiente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette compensation d'une fonction déficiente ? On peut le faire que ce soit avec de la chimie, avec un outil technologique, que ce soit par exemple à travers une dialyse, à travers une injection d'insuline, à travers une injection d'adrénaline, en cas d'arrêt cardiaque, ce genre de choses. Donc, on va de façon momentanée, temporaire, compenser une perte de fonction d'un de ces organes. Par un outillage plus ou moins technologique, mais qui peut être aussi biotechnologique, qui peut être chimique, etc. On ne fait que compenser momentanément cette fonction déficiente. On ne répare pas l'organe, on ne redonne pas au corps cette autonomie dont tu parlais tout à l'heure, Christian. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on arrête cette compensation, eh bien, le corps retrouve son état initial de maladie ou de déficience. Un troisième niveau qui irait plus loin que cette simple compensation, qui irait plus vers une réparation ou vers une restauration de la fonction perdue, eh bien, il s'agirait de, par un processus technologique, de retrouver la fonction originale de l'organe de manière durable. Donc de manière à ce que même quand on cesse l'intervention technologique, l'organe puisse continuer à fonctionner selon un état qui serait un état, je dirais, original de départ. Donc on va essayer de rechercher un état antérieur, donc de restaurer ce fonctionnement du corps. Et là, on peut le faire par des techniques qui ne sont pas forcément extrêmement scientifiques. On peut le faire par de la physio, par exemple, hein, quand il s'agit de restaurer des fonctions musculaires, etc. On peut le faire par de l'ergothérapie, par de la chirurgie aussi, ça peut être le cas. Et la distinction entre les deux niveaux est que cette restauration est durable et qu'on va essayer de rendre à l'organe son autonomie de fonctionnement. On va essayer de lui redonner, de restaurer ces fonctions-là. Donc l'idée qu'il n'y a pas une dépendance extrêmement longue à l'objet technique ou à l'acte technique. Et puis, les transhumanistes, et puis maintenant aussi les scientifiques, imaginent par exemple dans cet ordre d'idée-là la thérapie génique. C'est typiquement une volonté de restaurer la fonction en allant très très loin chercher l'origine de la fonction dans la génétique, dans le génome, en modifiant le génome de façon à ce que le corps puisse, entre guillemets, s'auto-réparer, hein, puisse reproduire ce qu'il n'arrivait plus à produire. Tout ça, les transhumanistes l'évoquent, mais ça ne me semble pas du tout être une spécificité du transhumanisme. Tout ça est déjà de la médecine relativement classique. Et si on regarde ces phénomènes avec un autre angle de vue, qui est celui de « mais quelle est la norme qui fait que l'on va vouloir prévenir, compenser ou réparer ? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme norme de santé ? D'où vient cette norme de santé ? D'où vient cet état antérieur qu'on cherche à retrouver ? Eh bien, c'est à la fois un mélange de normes, je dirais, à la fois fonctionnelles, vivre dans son environnement, arriver à vivre dans son environnement, du point de vue de la compensation, quand on cherche à compenser une fonction déficiente, par exemple avec une dialyse ou d'autres types de technologies, on ne va pas forcément retrouver une qualité de vie identique à celle qu'on aurait ou qu'on souhaiterait avec un mode de type réparatif. Mais on va chercher une norme qui est celle du vivant, au sens de Camp Guilhem, d'arriver à vivre dans son environnement, avec tout ce que ça comprend, environnement familial, technologique, etc. Donc c'est des normes qu'on vise, qui viennent à la fois du social, mais aussi des conditions économiques dans lesquelles on vit, parce que l'état de santé vers lequel on peut viser avec ces technologies médicales dépend évidemment de ce que la société, de ce que l'on peut s'offrir dans cette société-là, de ce que les assurances acceptent de payer. Donc aussi dépend de normes économiques et pas seulement des normes du désir de l'individu. Donc il y a forcément un principe de réalité. Là où les transhumanistes vont se distinguer de ces modes de modification qu'on trouve déjà en médecine, il me semble que c'est dans leur volonté d'augmentation du corps. Donc le fait d'aller plus loin dans les fonctions du corps que ce qu'on aurait dans un état, antérieur, à la fois dans le degré, ça peut être augmenter, la capacité, augmenter le degré de ses fonctions, entendre mieux qu'un homme, voire mieux qu'un homme, par exemple. Mais ça peut aussi être non pas seulement une modification liée au degré, mais une modification dans la nature de ses fonctions. Donc des fonctions que l'homme n'aurait pas, que l'on trouverait par exemple chez d'autres animaux, comme tu as mentionné le sonar, par exemple Batman, typiquement, bah, c'est un homme chauve-souris qui intègre un sonar, par exemple. Donc de s'adjoindre des fonctions qui viennent soit d'une autre espèce, animale, biologique, soit qui viendraient de technologies, d'objets technologiques comme le robot, par exemple, ou des éléments d'informatique. Et là, il me semble que c'est plutôt là que va se trouver la spécificité de ces philosophies transhumanistes, et notamment, par exemple, de faire un lien avec les intelligences artificielles. Mais alors, la question de la norme, est-ce qu'on est toujours dans le même type de norme que dans les modifications précédentes, où on cherchait à aller vers plutôt une norme de ce qui nous permet de vivre dans notre environnement donné? Là, le sens de la norme change complètement, parce que elle n'est plus nécessairement une norme simplement d'adaptation à l'environnement, mais c'est une norme où on cherche clairement à modifier cet environnement. Clairement, quand tu l'as montré dans ton exemple des stations spatiales, on imagine que l'homme peut sortir de son environnement, aller produire un autre environnement dans lequel il serait, auquel il s'adapterait. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup surpris dans ces mouvements transhumanistes, c'est qu'on a une multiplicité de, comme tu l'as déjà dit Christian, de perspectives qui vont autant des libertariens qui vont essayer de déterminer cette norme uniquement à partir de l'individu, de ses préférences personnelles, donc d'un choix libre de l'individu, que des mouvements beaucoup plus collectivistes, moi je dirais quasiment totalitaires, parce que ça mérite, quand on nous dit voilà ce que l'humanité dans le futur pourrait être avec un grand H ou avec une uniformité de ce que devrait être l'homme. Donc on a vraiment tout le spectre politique qui va du libertarien au totalitariste d'extrême gauche. Et on a tout ça dans le transhumanisme, ce qui est assez surprenant. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'avoir un jugement global sur ce transhumanisme. Il faut aller, je pense, dans chacun de ces discours très différents qui, chacun, imagine différemment la norme et l'origine de la norme. Soit elle est... et clairement, on ne l'a pas montré ce film, mais c'est le film qui ouvre le colloque 2045 à New York. Dans ce film, il y a clairement la volonté qu'il y ait une sorte de gouvernance mondiale, on ne sait pas très bien de qui, d'experts, de techniciens, de scientifiques, qui déterminerait ce que devrait être l'avenir de l'humanité, l'évolution de cette humanité. Donc il y a clairement une demande pour qu'il y ait une discussion sur cette évolution, une discussion globale là-dessus. Et puis il y a d'autres transhumanistes qui ne veulent pas du tout de cette vision globale de ce que serait une humanité future, qui vont plutôt vers, comme je l'ai dit, vers un choix totalement individuel. Donc ça, c'était pour évoquer les éléments liés aux modifications corporelles. Mais ce que j'aimerais juste, il me reste quoi, 4 minutes 30, c'est évoquer d'autres types de modifications qui sont aussi évoquées par les transhumanistes et qui me semblent, elles, beaucoup plus intéressantes peut-être que les modifications corporelles qui sont déjà depuis longtemps mises en œuvre. C'est toutes les modifications qui en fait concernent notre environnement ou les interactions avec cet environnement. c'est l'idée qu'on peut augmenter cette fois-ci plus les fonctions du corps, mais les compétences de l'homme. On change, vous voyez qu'on change de vocabulaire, hein, on passe dans un autre jeu de langage. Et qu'il s'agit là de modifier le monde dans lequel on vit, l'environnement, et plus précisément avec quoi, avec quelle technologie ces transhumanistes nous proposent-ils de modifier ce monde? C'est avec les technologies de l'information et de la communication. Donc d'enrichir ce monde avec lequel nous interagissons de tout un élément qui vienne du web, qui vienne d'Internet, qui vienne des intelligences artificielles. Donc de rajouter des couches de connaissances, des couches de savoir à nos perceptions directes du monde. Vous avez tous entendu parler de ces fameuses Google Glass, ces lunettes qui permettent de rajouter une couche de réalité augmentée face à ce que vous voyez, face à ce que vous percevez, de rajouter grâce à une intelligence artificielle des informations à votre vision. Donc c'est l'idée qui vient de penseurs assez différents, qui viennent autant de Haraway, de Donna Haraway dont on a parlé, que de Latour ou encore des constructivistes, que ce qui fait notre humanité, c'est pas tant notre corps, mais c'est ce avec quoi on va échanger des informations, produire des informations et accéder à l'information. Et puis c'est cette idée aussi que grâce à ces technologies-là, pourquoi est-ce qu'on est dans un transhumanisme? Pourquoi est-ce qu'on est dans un dépassement de l'humain? Parce qu'on produit ce qu'on appelle des produits d'intelligence collective. On arrive à travailler à distance, à plusieurs, à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire sans ces technologies-là. Je pense à tous ces exemples maintenant de scientifiques qui travaillent dans le monde entier sur des mêmes objets, sur des wikis, par exemple en chimie, il y a des wikis dans lesquels on va déposer des résultats d'analyse, des milliers de résultats d'analyse venant de laboratoires différents qui permettent de reconstruire des connaissances que tout seul, avec son petit labo, on n'aurait pas forcément pu produire. Donc on arrive à changer pas seulement la quantité des informations, mais la façon dont on les produit. Donc cette idée que la technologie modifie non pas seulement notre corps, mais notre façon de penser, elle est très ancienne, non ? Elle date déjà de McLuhan, de Marshall McLuhan, qui dans les années 50 pensait que le média qu'on utilise pour communiquer va changer la façon, le contenu même des messages que l'on produit. Le média n'est pas neutre, et ces nouveaux médias ne sont pas neutres selon ces transhumanistes non plus. Voilà, donc... Bon, je m'arrête, je suis à 12 minutes 37. Je voulais vous montrer juste une toute petite vidéo de la Google Car, donc cette voiture qui est pilotée entièrement automatiquement. Dans cette vidéo-là, le monsieur que vous voyez ici est aveugle, en fait, à 95%, et il va faire ses courses au drugstore du coin. Donc la vidéo est déjà ancienne, c'est déjà une vieille technologie qui date de 2008. Elle se base sur quoi? Elle se base justement sur un réseau d'informations. Cette voiture utilise un Google Street View, donc toutes les informations qui ont été stockées à propos des parcours, des distances, etc. Elle utilise également des éléments de robotique, donc des capteurs, des senseurs, des sonars qui permettent de détecter les obstacles qui surviennent lors du parcours. Mais elle combine tous ces éléments d'informations avec la destination où le personnage souhaite se rendre. Mais il y a un paradoxe dans cette vidéo. Vous voyez le monsieur là qui discute, très content. Je ne vous laisse pas le commentaire. Vous voyez qu'il fait absolument rien, il ne conduit pas. En fait, il est assis dans la voiture, elle peut très bien fonctionner sans qu'il y ait de conducteur. Ça nous donne l'impression, en fait, qu'on lui a rendu une fonction, qu'on lui a rendu la capacité de conduire, mais en fait, pas du tout. C'est son environnement qui s'est adapté à lui pour lui permettre de retrouver cette fonction. Et ça, c'est peut-être le mot sur lequel je vais terminer. C'est qu'en fait, c'est une autre perspective sur les modifications qui est de dire on pourrait aussi, sans forcément modifier le corps, mais modifier l'environnement de façon à ce que les personnes qui ont des déficiences puissent vivre de façon quasi normale. Et là, on peut se poser, mais est-ce qu'il n'y a que la technologie qui permet de faire ça? Un chien d'aveugle, il fait très bien la même chose, quasiment. Ou bien une autre personne qui l'accompagne ou qui conduit avec lui. Donc, pour dire que la technologie n'est pas forcément la solution unique, mais que l'idée, c'est à travers les environnements d'information et le croisement de ces niveaux d'information qu'on peut rendre vivable un environnement à une personne qui lui était devenue étranger, en fait. Voilà. Et puis pour provoquer un petit peu, je dirais peut-être pour la partie précédente sur la santé, je dirais que peut-être le plus grand organisme transhumaniste, c'est l'OMS, parce que sa définition de la santé est tellement vaste, je vous la cite, que est le magnifique, c'est d'atteindre un état complet de bien-être physique, mental, social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, est-ce que ça, c'est pas un projet transhumaniste aussi? Non.
Ok, alors on ouvre la discussion à Vernon, hein. Toujours prête à répondre.
Je suis extrêmement frappée par le fait que tout le discours qu'on tient là, sur l'humain, ne tient absolument pas compte du domaine inconcevable, incontrôlable, etc., de l'émotionnel. La main artificielle, moi je veux savoir comment on place ça dans le monde, en fait. Parce que la main artificielle, oui, d'un point de vue fonctionnalité, elle peut être supérieure à la main humaine, quoique, pour certaines choses, elle l'est. Mais pour se caresser quelqu'un, la sensation d'art, c'est pas du tout touché, c'est pas du tout restitué. Donc là, c'est quelque chose, c'est une illusion de préparation, c'est une préparation fonctionnelle, mais ça ne définit pas l'être humain. Ce qui me fait peur dans le discours en question, c'est cette confusion qui consiste à penser que la machine, la prothèse, enfin, tout ce que vous avez dit d'ailleurs, madame, vous avez un peu, il me semble, aussi, pour dénoncer ça, c'est d'adapter dans des volumes de l'air, mais finalement, il ne voit quand même pas. Enfin, je veux dire, une émotion qui est profitée, la vision, elle n'est pas restituée. Et moi, je vois aussi dans le fait qu'en 29, je ne sais pas pourquoi là-dessus, quoi, qu'en 29 et par la suite, il y a eu cette espèce de mirage, de l'hyperfonctionnalité collectivée, ça me fait quand même aussi penser à la même erreur tragique, ça ne va pas mieux pour le dire, d'une société arménienne parfaite, avec élimination industrielle. Extermination quasi industrielle de l'homme. Donc, je trouve qu'il y a des vertus. Bon, l'évacuation de tout ce qui échappe à la population.
Il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais surtout dire d'abord qu'il ne faudrait pas, disons, je ne voudrais pas trop réifier, enfin, c'est un peu compliqué, un peu difficile en fait, ça tient difficilement de réifier justement l'émotionnel en disant l'émotionnel c'est ça et pas ça. Puisque dans le cas du le gros, pour quelqu'un qui a perdu son bras, qui avait l'habitude d'avoir un bras, il n'est pas né sans bras, qui a perdu son bras, il avait l'habitude justement, comme tu dis, d'avoir des sensations, éventuellement de caresser son chien ou autre chose. Et alors il a toujours une autre main avec laquelle il peut le faire, donc ça a une. Mais le gros problème de ces prothèses, c'est de pouvoir d'avoir une préhension, enfin une capacité de prendre, soit suffisamment forte pour ne pas lâcher l'objet, et suffisamment, enfin pas trop forte pour ne pas le détruire. Son retour sensoriel, au début. Et il faut plusieurs mois d'adaptation pour commencer, comme dit d'ailleurs dans la première vidéo, le gars qui joue au ballon, disant « je sens le cuir sous mes doigts », évidemment c'est de la fiction, mais de là à pouvoir, c'est marrant de serrer la main de Miguel Hotland par exemple, il y a beaucoup de gens qui hésitent, est-ce que je peux, est-ce que je risque rien, elle dit non c'est bon, c'est safe. Il faut plusieurs mois d'adaptation du cerveau, des signaux, c'est une traduction, c'est pas le même mouvement. Et c'est des mouvements qui sont décomposés, hein. Pour lui, un mouvement n'est jamais fluide, il est toujours en plusieurs séquences, même si ça se fluidifie petit à petit. Et donc, il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage qui, là j'en suis sûr, enfin, il y a beaucoup de matériel pour montrer ça, embarque beaucoup d'émotionnel, justement, de retrouver quelque chose comme du toucher, quelque chose comme, qui évidemment, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais. Donc ça, moi je vais juste réagir là-dessus en premier temps. Peut-être toi, tu as quelque chose à dire sur les nazis.
C'est gentil. Je poursuis quand même juste, je donne un exemple sur la question de l'émotionnel, quelque chose qui m'a frappé. Par rapport à ces ingénieurs qui travaillaient sur les implants cochléaires, donc on peut modéliser, on a des robots assez efficaces pour modéliser en fonction de ce qu'on a réussi à réactiver du nerf auditif,
À quoi correspond par rapport à une ouïe, disons, commune, à quoi correspond le type de son qu'entendent les gens qui, bon, et je me souviens du cas d'une personne qui avait perdu sa capacité d'écoute à cause d'un accident de voiture. S'était fait implanter, avait récupéré une partie et parlait de l'émotion inouïe qu'elle avait ressentie à la possibilité de réentendre Mozart. Et que chaque soir, c'était pour elle une manière de... Voilà. Et qui parlait beaucoup avec la personne qui l'avait interviewée de ça. Et l'ingénieur à qui je parlais, de manière un peu pour dire, oui, de toute façon, elle ne sait pas de quoi elle parle, cette personne, puisque regardez en fait ce qu'elle entend, et fait passer à travers son robot qui permet de modéliser. Et effectivement, le Mozart qu'elle entendait, dans nos oreilles, sonnait à peu près comme le genre de musique que moi j'écoute. qui était des murs de bruit extrêmement impressionnants. Qui, moi, me procurait un intense plaisir esthétique, qui, pour cet ingénieur, était la preuve que cette personne n'avait rien récupéré du tout et qu'elle était en pure mythomanie, et pour cette personne qui était au contraire quelque chose de réactivé de soi, de ce qu'elle entendait, du Mozart qu'elle avait entendu, qu'est-ce que ça veut dire. Je ne peux pas vous répondre beaucoup plus que ça pour dire que cette question, effectivement, elle est, qu'est-ce que ça veut dire récupérer une capacité de préhension, peut-être. Bien sûr qu'on peut dire, ben voilà, à l'avenir, c'est les premiers implants rétiniens. La seule chose que les gens récupéraient, c'était la capacité de déterminer s'il y avait de la lumière ou pas, signal lumineux ou pas. Bon, quelle émotion est liée au simple fait de ça, de voir que des variations de lumière. Là-dessus, je ne peux pas me prononcer beaucoup plus, dire beaucoup plus que ça. Sur la question arienne, je vais laisser Gabriel m'interrompre.
Ah non, mais on peut prendre, mais on peut poser une autre question par Michel.
Oui. Sur la question arienne, vas-y.
Allez.
Moi, j'aimerais répondre quelque chose, c'est que... L'émotion est un facteur extrêmement important dans ces mouvements totalitaires comme celui que vous mentionnez, qui a été utilisé énormément, beaucoup plus que la rationalité, pour convaincre des masses de faire des choses qui n'étaient pas rationnelles. Donc l'émotion n'est pas nécessairement quelque chose de positif pour l'histoire. Et voilà. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que vous mettez quand même le doigt sur quelque chose d'intéressant. Ces mouvements transhumanistes, ils ont peut-être une défiance vis-à-vis de l'histoire où on laisse les choses se dérouler selon le hasard. Et peut-être qu'ils prennent comme modèle l'histoire des sciences ou les progrès des techniques parce qu'ils y voient une téléologie, ils y voient une histoire qui va quelque part et qui a quand même fait quelques progrès, ce qui n'est pas tellement le cas de l'histoire politique, ou très peu, ou de manière extrêmement parcellaire. Donc on peut comprendre que ça fascine un certain nombre de personnes, cette histoire des sciences, parce qu'elle semble quand même avancer, alors que l'autre histoire, ben, elle est en involution quasi permanente.
Alors, tu pourras dire ton truc sur les nazis après.
Oui, moi, je voulais juste, c'est pas une question, c'est plutôt je vais prétendre un recadrage conceptuel. Non, mais c'est super intéressant parce qu'on voit là s'affronter clairement ce qu'on pensait bien qu'elle allait s'affronter, on pensait pas si vite, mais c'est assez clair. C'est-à-dire en gros une pensée humaniste et une pensée transhumaniste. Bah, c'est bien un type de pensée qu'elle a derrière. Et je pense que là, un mot qui apparaissait dans une des citations que l'on débat, c'est Willem, peut-être, tu me diras Christian, c'était l'idée d'une prothèse originale. On est passé arrêté sur cette idée. Prothèse originale, c'est totalement donc paradoxal conceptuellement de penser une prothèse originale. C'est-à-dire que le premier serait la prothèse. Au lieu d'une pensée de type humaniste, avec des hiérarchies, par exemple, on y va par degré, qui est une pensée qui s'appuie sur une base, où il y aurait une base, on va l'appeler le corps, on va dire qu'il y a de l'émotion, etc. Il y aurait quelque chose, on cherche ensuite à augmenter. C'est pour ça que l'idée d'augmentation, elle est délicate. Parce qu'elle présuppose encore qu'il y aurait quelque chose, comme l'homme, ou la nature, on va l'appeler différemment. Et qu'ensuite, peut-être par degré, on risquerait, là, évidemment, toujours le mythe, c'est l'apprenti sorcier. On est trop loin, parce qu'on a manqué de modestie. Et évidemment, le schéma ou la pensée transhumaniste, elle essaye de faire autre chose que ce mode. Et on voit là qu'il y a un croisement, je ne suis pas sûr qu'on se...
Mais Jean-Michel.
Ouais, moi, ce qui me frappe, c'est que je ne sais pas s'il y a dans ces discours transhumanistes une réflexion sur le concept, la notion d'humanité ou d'humain. Parce que j'ai l'impression qu'on glisse, qu'on passe insensiblement d'un registre à un autre. C'est-à-dire qu'on passe du registre, je dirais, biologique ou évolutionniste, la question de l'humain au sens de l'espèce, ou sapiens sapiens. Et puis on passe à une notion beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large, dans philosophique, qui serait politique, morale, sur l'humain, tel qu'on l'a défini depuis les Grecs, hein, à savoir finalement qu'est-ce qui fait qu'effectivement on a tel type de compétences pour les mettre au service d'une quelque chose qui est à la fois nous-mêmes et nous dépasse. Donc du coup on a un petit peu l'impression que ces deux registres se mêlent, ce qui fait qu'un discours scientifique plus axé sur la réparation, sur le corps, d'un coup, devient un discours politique.
Moi, je peux vous donner une piste. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de réponse à cette question qui est très intéressante. C'est dans les personnages que j'ai évoqués, ce qu'on entend par humain, c'est ce qu'un théoricien politique canadien qui s'appelle Macpherson a appelé l'individu possessif. Cette espèce qui a la capacité, qui possède sa propre liberté. C'est une définition lourde, forte, qui définit ce qu'on entend et normative. Et du coup, ce qui est post-humain, c'est tout ce qui est à partir de cette définition mis en crise, mis en danger, défait, dépassé. La question du cyborg ou de la prothèse. La prothèse, c'est une production sociale. Elle met en danger cette question que c'est donc elle est produite par une société qui, d'une certaine manière, qui possède la prothèse que vous avez, qui la produit, qui va la récupérer, qu'est-ce que c'est ce corps, etc. Si vous repensez ensuite l'intégralité du corps qui possède les organes, enfin, toutes des questions à la fois de politique et de droit. Elles mettent chaque fois en crise ou en danger cette question qui veut qu'un individu se définit par le fait qu'il possède sa propre liberté. Par contre, à l'envers, ce qu'il y avait dans cette belle définition on peut en donner d'autres, hein, mais disons de l'humanisme, c'était que personne ne pouvait nous déposséder de cette liberté. Il n'y avait pas de désappropriation. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est extrêmement intéressant et qui parcourt toute la réflexion transhumaine. C'est que personne ne peut vous désapproprier de qui vous êtes. Ça, c'est assez...
Définition. Depuis très longtemps, on sait qu'on ne peut pas nous déposséder.
C'est ce que disent les transhumanistes. Ça continue, on est sur la même ligne.
Oui. Mais
c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du décrochage, et puis il y a des dans chaque définition qu'on donne, je pense que Gabriel pourra en donner une autre, Florence une autre, dans la salle d'autres, chaque fois on se trouve sur ce paradoxe qui fait qu'on retrouve des choses très anciennes dans la manière de considérer l'humain. Et c'est des choses qui mettent en question cette manière ancienne de poser la question humaine.
Ouais. Mais j'aurais juste dire deux petits, à propos du transhumanisme. J'ai pris grand soin à ne pas en parler, ou j'ai peut-être mentionné juste une fois, pour deux raisons. Une raison d'abord très pratique, c'est-à-dire que je suis supposé faire une thèse là-dessus, donc j'essayais justement de ne pas en parler. Et une autre question plus sérieuse, c'est que, et on le voit bien là dans la discussion, c'est pas du tout pour recadrer qui que ce soit, hein, mais ça magnétise l'attention. C'est vraiment tout à coup, et en tout cas, moi je vous garantis que c'est très difficile de savoir qu'est-ce que c'est que le transhumanisme. Ça fait 4 ans que je travaille là-dessus, et je sais beaucoup moins maintenant qu'il y a 4 ans. Puisque, d'où le titre dont ce que je disais au début de la conférence de Rémi Susson, c'est qu'il y a des transhumanismes, et c'est un courant de pensée qui effectivement s'accorde sur certaines choses très fondamentales, mais c'est assez difficile de trouver vraiment les points communs. et qui ensuite alors divergent au niveau des projets, du rapport au corps, du rapport à l'immortalité ou pas, du rapport à la santé, du rapport à l'information, à la cybernétique, etc. C'est vraiment très touffu et très complexe. Donc s'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que c'est pas une secte et que c'est pas un mouvement totalitaire. Et alors il y a peut-être des imaginaires qui circulent là-dedans, et pour la plupart c'est des gens tout à fait enfin comme vous et moi, c'est-à-dire qui sont pas des patrons d'industrie, qui sont pas, c'est juste pour, mais l'enjeu aussi de ce cycle, allez là je fais un peu le voilà, bon, c'est vraiment de penser pas le transhumanisme, enfin aussi mais pas que, mais aussi nos rapports quotidiens à des techniques dont parlent les transhumanistes, et qui nous sont annoncées peut-être pour demain, ou qui sont peut-être déjà là, ou qui sont peut-être depuis autant qu'on s'en souvienne. Voilà. Mais oui. Oui, enfin, je ne sais pas.
Oui, alors je reviens sur le mot liberté, c'est vrai qu'il y a danger à travers ce transhumanisme. Il y a danger pour la liberté, effectivement, parce qu'on est dans la maîtrise, dans une recherche de maîtrise technologique, une forme de volonté de puissance qui émane de cette pensée, de cette lutte contre la mort dans un monde en perdition. Mais effectivement, on pourrait avoir une toute autre pensée, complètement différente. La vie est un éternel printemps, et la mort est un nuage passager, par exemple. Et on a à ce moment-là deux postures, une position anthropocentrique contre une position anthropomorphique. Voilà. C'est-à-dire que si on se place au centre du monde, dans la maîtrise, on veut lutter contre la mort. Ça, c'est une lutte qui existe depuis la nuit des temps, depuis l'homme et depuis l'homme. Mais on peut se placer différemment, c'est-à-dire dans une énergie de vie qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on laisse aussi ce qu'on pourrait appeler une forme d'harmonie du monde s'accomplir. C'est la petite parcelle qui existe, qui fait qu'on peut se reconstruire tout seul dans le corps humain. Donc on a une modalité corporelle qui permet ça. Et je pense que là, c'est intéressant à creuser. On pourra toujours essayer de compenser. C'est ce qui se passe dans la main artificielle. C'est pas un homme augmenté, c'est un homme réparé qui va trouver une forme de compensation à faire tourner sa main dans tous les sens. Ah ouais, ça, je peux le faire, pas vous. Mais il va être obligé de la retirer la nuit pour la recharger. Alors bon, ça se discute. Il est content. Toutes les personnes atteintes de handicap ont une forme de fantasme, de puissance. Ils ont un super fauteuil avec des capacités, ils vont à 70 à l'heure, etc. Mais bon, c'est un fauteuil quand même. Voilà. Donc, il ne faut pas se leurrer.
Ok. Discussion à poursuivre, je sais pas, Hugues.
Ah, mais... moi j'aimerais rebondir sur le recadrage conceptuel de Michel, que j'ai trouvé très bien vu. Au fond, cette idée d'un le corps comme originalement prothétique, d'une certaine manière, hein, comme prothèse d'une, je sais pas, d'une volonté, encore informe, mais qui se donne une première forme, qui serait le corps. Et ensuite, au fond, l'ajout d'objets, l'ajout de techniques, l'ajout de possibilités matérielles, etc., d'agencements divers, constitueraient au fond des prothèses qui viennent se greffer sur cette première prothèse. Ma question, au fond, elle est toute simple. C'est je rebondis une seconde sur certaines images que Christian a montrées, ces images d'utopie dans des espèces de tubes dans l'espace qui récupèrent toute l'énergie, et puis on imagine qu'à l'intérieur du tube il se passe tout plein d'activités entre les hommes. Ça fait une espèce d'immense prothèse collective sur laquelle les corps humains, augmentés ou non, se branchent, de toute façon toute une série de prothèses techniques de toute évidence. Mais ça donne l'impression d'être un imaginaire, au fond, j'ai pas envie de reprendre l'adjectif totalitaire, je trouve personnellement que ça me déplaît, enfin je trouve que c'est une simplification un peu rapide, mais ça donne vraiment quelque chose comme une espèce d'imaginaire d'une prothèse collective, dans laquelle on va s'organiser collectivement en vue d'échanges, et où effectivement le sujet le sujet de la prothèse, ce n'est pas l'individu qui cherche à être plus et mieux que les autres, l'obsession d'être le meilleur, c'est plutôt effectivement une collectivité qui cherche à organiser. Et moi, c'est cet imaginaire, disons, d'une prothèse collective que je trouve très attirant personnellement. J'étais vraiment très séduit par ces images. Et c'est vrai que pour moi, le transhumanisme, ou le discours autour de ça, est souvent rapporté au discours libertarien, ce qui personnellement me fait pousser des boutons, tandis que cette autre perspective m'intéresse beaucoup plus. Et au fond, effectivement, d'une certaine manière, on n'a pas de... Oui, on est dans un imaginaire prothétique. On continue. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et dans une perspective collective. Je ne sais pas si... Bon, c'est plus une remarque qu'une question, mais je trouve ça assez attirant, personnellement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à réagir à ce propos. Il n'y a pas vraiment plutôt une remarque autour de ça.
Ouais, juste c'est-à-dire une chose, c'est
dénaturalisation radicale. C'est-à-dire, effectivement, il y a... Oops. Pour reprendre l'image de Michel, il n'y a plus de corps base.
En tout cas, on peut créer une communauté libertarienne.
Pardon ?
C'est tout à fait possible de créer une forme de communauté libertarienne. C'est en tout cas ce qui est en train d'être monté.
C'est plus
monté.
Une communauté, c'est libertarien.
C'est ce qu'ils sont en train de faire au large de San Francisco. Enfin, ils en sont à l'élaboration, au montage financier pour une île qui soit soumise au droit maritime au large de San Francisco, financée donc par les grands libertariens américains, Peter Thiel, tous les grands noms des technologies, d'ailleurs, fondateurs de PayPal, etc. Et s'ils y arrivent, à réunir l'argent, ils vont construire une île suffisamment au large de San Francisco pour être dans le droit maritime, c'est-à-dire n'appartenir à personne, et suffisamment proche, évidemment, pour être à portée d'hélico, pour aller faire tout ce qu'ils ont à faire sur la côte ouest. Et donc, c'est pas une station spatiale, mais c'est une île, une utopie au sens. Google a des projets similaires. Donc, je crois pas que ça soit si contradictoire que ça. C'est un rapport à la communauté au sens large. Nous, on peut créer une micro-communauté.
Un petit club des élus. Ça, c'est facile. Oui, non, mais. Je sais pas,
si on voulait. Juste relancer, mais peut-être Florence aussi, là, je sais pas. C'est-à-dire que je pense que tu as très bien souligné quelque chose de fondamental sur cette idée du corps comme prothèse originale. C'est l'idée que, à la limite, même le mot sujet est un mot qui est problématique parce qu'on est toujours en collaboration. C'est ça l'idée de la prothèse. On est toujours, quand j'ai dit le corps est un écosystème, une écologie avec des objets techniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On pense immédiatement le corps comme collaboratif. Tu parlais très bien. C'est effectivement très juste sur cet imaginaire. Et du coup, c'est, quand je disais l'héritage de toutes ces questions, ça va tout à la fois... On partage le même disque dur, pour ainsi dire, le même programme, le même imaginaire, des gens qui vont travailler dans l'écologie, dans l'écologie radicale et dans à la NASA. C'est effectivement une manière de penser le corps, le sujet, les questions politiques, en les abordant comme des collaborations. Donna Haraway, dont on parlait, qui a écrit un texte qui est surtout connu pour un texte qui s'appelle Le Manifeste Cyborg, écrit en 1984, à qui on demandait il y a quelques années qu'est-ce que c'est un cyborg, et on lui a posé la question des milliers de fois, disait c'est une vieille dame avec son chien. Une vieille dame avec son chien, c'est vous ne pouvez pas enlever le chien, vous ne pouvez pas enlever la vieille dame, c'est forcément quelque chose comme une collaboration. Et c'est toute une histoire, il n'y a pas de... Donc c'est ça, il n'y a pas de... C'est une danse des êtres. Si vous voyez la citation que j'ai donnée, elle appelle ça une chorégraphie. Faut penser la vie comme une chorégraphie. C'est tout... Ici, je ne fais que prolonger pour donner des éléments qui alimentent ta remarque, mais c'est... dans toutes ces questions, je pense que c'est qu'une manière, hein, de l'île à San Francisco, on a une autre. De réinterroger cette question du rapport à la technique.
On passe la parole. Ouais, y en a plein. Jessica, peut-être avant, je crois, Pierre.
Par rapport à la prothèse collective,
Il y a un film dernièrement qui est sorti, donc c'est le poster américain, voilà, mais ça s'appelle Elysium. Et ça met vraiment, quand j'ai vu les images là, de la présentation, c'est exactement ça. En fait, c'est l'histoire d'une communauté qui se fait dans l'espace et qui reprend exactement la même, le même imaginaire qu'on a vu et qui se base aussi, tous les humains là-bas sont augmentés. Ça a donné une chance à certains humains de vivre sur Elysium à la Terre. Et, voilà,
donc
c'est juste pour dire
ça,
si jamais ça
n'a pas
d'affaire.
Oui,
il est sorti, je
crois,
exactement.
Voilà.
Pierre.
Moi, il me semble qu'il y a deux niveaux qui risquent un peu de se confondre, enfin, dans ce que j'ai entendu. Il me semble que le premier niveau, c'est la question de qu'est-ce que c'est la norme. Est-ce que la norme, c'est d'être libre, selon votre expression tout à l'heure, ou le moins handicapé possible? Ou est-ce que c'est d'être plus que libre? Est-ce que c'est d'être in-housé, comme vous le disiez avant? Et j'ai envie de dire, que devient celui qui ne peut pas être réparé? Ou que devient celui qui ne peut pas réacquérir sa liberté? Est-ce qu'il cesse d'être homme? Est-ce qu'il cesse d'être dans la communauté des semblables? Etc. Il y a ce genre de questions. Avec par exemple, il y a eu une enquête qui a été faite par la... un organisme quelconque, je ne sais plus lequel, auprès des médecins généralistes du coin, et qui disait, la substance X, peu importe laquelle, est-ce que c'est judicieux de la donner à un scientifique jet-lagué qui vient faire une conférence? Est-ce que c'est judicieux, la même substance, de la donner à la mère de famille épuisée avec ses trois gamins? Est-ce que c'est judicieux de la donner à l'étudiant qui va passer ses examens? La même substance, donc, de Enhancement. Et les réponses sont évidemment très larges, hein, et très largement réparties. Et se pose, dans ce domaine-là, immédiatement la question de la justice. Est-ce qu'il est juste de mettre des prothèses alors qu'à 10 heures d'avion, on meurt parce qu'on ne peut pas se faire opérer de l'appendicite parce qu'on n'a pas de quoi payer l'hôpital, par exemple? Ces questions-là qui se posent. Et puis, il me semble qu'il y a une deuxième salve de questions devant un autre domaine que, personnellement, je souhaiterais ne pas mélanger, j'ai envie de dire. Enfin, bien sûr, tout se mélange, mais qui me semble différent, c'est la question, finalement, qu'est-ce que c'est que l'être? Est-ce que c'est l'homme opérationnel? Est-ce que c'est un noyau dur sur lequel on peut greffer des choses? Maintenant, on sait qu'on peut greffer plein de choses, un corps, un poumon, enfin, etc. Il y a un joli livre de Nancy, je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui, enfin, je ne me rappelle plus du nom du bonhomme, mais à propos, c'est un philosophe français qui a été greffé du cœur. Ça s'appelle L'Intrus. Luc Nancy, voilà. Voilà, le nom m'avait échappé. Finalement, est-ce que si on greffe un cerveau, que devient le résultat? Est-ce que le résultat, c'est celui qui a donné le cerveau ou celui qui a donné le corps? Ben, je trouve que ces questions-là se posent aussi sur, finalement, aussi on pourrait aller chercher la différence entre l'être et l'étant, hein, je pense, les choses opérationnelles et les choses plus profondes. Enfin, je trouve qu'il y a ce deuxième niveau de réflexion qui se pose, qui me semble être un chapitre qui, à mon avis, est bien traité de manière différente et de ne pas mélanger les deux niveaux.
Quelqu'un
d'autre? Il y a tellement de mains.
Comment dire, ouais. Je sais pas. Hein, je...
Non, c'est pas pour, rebondir. S'il y a une réponse...
Rebondir. Hein. Rebondissez.
Par rapport à ces questions de vie extraterrestre, d'environnement extraterrestre, ces visions-là, c'est frappant de voir qu'effectivement on reprend ça dans les films actuels, mais c'est des visions effectivement qui datent. Enfin, c'est. Moi je pense tout de suite à des plans de ville ou à des projets des années 60, Archigram et compagnie, qui font des superstructures, des villes agglomérables, enfin des. Et puis Le Corbusier, enfin des visions de ville en fonction, avec des séparations de fonctions, une vision très comme ça fonctionnaliste, mais basée sur une vision du corps. Donc, et puis il y a cette question-là, elle est réalisée. En l'occurrence, on pourrait parler, on y est, j'entends. Il y a des villes qui ont été construites comme ça. On peut avoir des regards plus ou moins critiques, et des gens qui y vivent. Il y a des vécus qui sont liés à ça, il y a des manières de vivre la ville qui sont nées de ces visions-là, bon gré, mal gré. Et toutes ces questions-là, elles sont effectivement dans ces villes-là. Moi, Enfin, ça me frappe de voir... Enfin, je trouve ces images datées, et ça me frappe de les voir encore, en fait. je suis frappé de voir que ces questions-là, elles datent aussi. Enfin, la question du penchant totalisant, enfin, voilà, de la vie, l'organisme. Donc, avec, en gros, avec une peau et puis l'extérieur. Comment on gère la limite de cette vie, comment on l'arrête, comment. Toutes ces questions-là, elles sont. Je pense que. Enfin, sont ouvertes depuis, effectivement, au moins les années 30 ou 60, pour reprendre l'organisme. Et ça m'étonne, enfin, j'aimerais bien qu'on aille plus loin au niveau maintenant. Je vois des réactions assez fortes, de refus ou quoi. J'ai l'impression qu'on y est, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, enfin, effectivement, je trouve très bien qu'on essaye de définir, parce que je pense qu'on en a besoin de sortir un peu ce truc un peu entre deux extrêmes. Il faut qu'on trouve des outils pour le bosser, ce truc.
Jean-Michel. Merci.
Finalement, c'est le mythe du paradis perdu, Paradise Lost de Newton, ça a été repris de littérature toujours, cet Elyséum qui est repris dans les films, effectivement. Hein, mais, alors, après, dans diverses formes, mais c'est toujours cette vision d'un monde qui serait hors frontières maritimes, hein, hors des législations, recréer quelque chose, un bon moyen. Et puis ça définirait, une élite pourrait appartenir à ce monde. Et c'est un truc qui est archétypique, enfin je veux dire, c'est très très ancien, c'est pas du domaine de la technologie, c'est du domaine de quelque chose de multiculturel, enfin pluriculturel. Alors là, l'humain doit tout à traverser la conscience humaine. Moi je crois que c'est juste le mythe du paradis perdu qui est exprimé là. Parce que tous ces rêves de terre idéale, de station spatiale, c'est étudié en géographie urbaine, les villes utopiques, enfin, ça a été, en science-fiction, ça a été traité, c'est traité partout tout le temps, c'est pas du tout nouveau. Je suis d'accord avec vous.
Non, on n'a pas tranché la question.
On n'a pas du tout tranché la question, mais je veux dire, c'est un peu. Moi, je trouve presque. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire. Je trouve presque ça, d'abord, je trouve pas du tout ça social. Je suis très très élitiste et puis presque un peu puéril pour ne pas dire pire, enfin, une extrême naïveté.
Je ne sais pas imaginer un utopique de 20 comme ça, relégué à l'infantilisme. C'est ça que j'arrive pas à accepter dans votre discours. Imaginez un utopique.
Non, mais c'est du rêve, mais il ne faut pas.